France Musique.
Très belle journée à vous, Karine Le Bay, et à dimanche prochain, bien sûr.
France Musique.
Nous avions quitté provisoirement Salzbourg il y a un mois, tout juste. C'était du côté du Manège des Rochers et de l'église Saint-Pierre. On y évoquait avec Marc Minkowski la création de la messe en ut de Mozart. Eh bien, cet après-midi, c'est de l'autre côté de la Salzar, sur la rive droite de la ville, que nous ouvrons ce nouveau numéro de l'ère des lieux. Nous allons rejoindre dans un instant la Fondation internationale Mozarteum. Le temps d'une ouverture. Quelques mesures de l'ouverture de Don Giovanni, et rappelez-vous, c'est avec elle que s'ouvrait le film de Miloš Forman, Amadeus.
Majesté.
Oh, non, je vous en prie. Ce n'est pas une relique sacrée.
À l'époque de Mozart, Salzbourg était loin d'être ce qu'elle est maintenant. C'était une ville dirigée par un prince archevêque, donc qui vivait surtout par la musique sacrée, qui avait peu de théâtre. C'était une ville dans laquelle Mozart ne pouvait pas se sentir à l'aise, parce que Mozart, ce qu'il adorait avant tout, c'était l'opéra, et il n'y avait pratiquement pas d'opéra à Salzbourg. C'était évident qu'il allait partir un jour et qu'il allait aller à Vienne, mais Mozart était un personnage certainement très complexe et qui n'était pas facile à vivre, et je pense qu'il ne se serait jamais plu nulle part, très longtemps.
L'ère des lieux, avec Geneviève Geffray au Mozarteum à Salzbourg, sur France Musique jusqu'à 17h.
Geneviève Geffray, merci de nous accueillir chez vous, j'allais dire ici à Salzbourg. Les auditeurs vont entendre qu'on a bel et bien affaire à une Française, mais qui a pris ses quartiers ici à Salzbourg depuis quelques petites décennies.
Il y a plus de 40 ans que je suis à Salzbourg, je suis là depuis 73.
Alors comment d'ailleurs une Française comme vous, Geneviève Geffray, s'installe ici à Salzbourg et s'y installe au point de devenir conservateur en chef de cette bibliothèque du Mozarteum dans laquelle nous allons entrer dans quelques instants, en quelques mots, mais cette histoire s'est déroulée de quelle façon?
Ça a été le hasard et beaucoup de chance. En fait, je cherchais quelque chose dans la musique et bon, je parlais bien sûr allemand et d'autres langues et je me suis trouvée ici au bon moment. Au moment où il cherchait
eux quelqu'un pour la bibliothèque, et moi j'en avais assez, je travaillais à Paris dans une banque, et c'était absolument pas ma tasse de thé. Et donc j'ai été engagée en 24 heures, et je me suis retrouvée ici très très rapidement, et j'y suis restée depuis.
Comment ça se passe les premiers temps, la vie d'une Française à Salzbourg? Et d'ailleurs, comment était cette ville il y a une petite quarantaine d'années par rapport à celle que l'on découvre et dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Geneviève Geffrey?
Bien sûr, la ville a grandi depuis, mais le rythme de vie était déjà celui qui est actuellement. Et bon, c'est une ville qui vit par la musique, donc quand on aime la musique, on s'y sent bien, parce que c'est vraiment une ville qui vit avec et pour la musique. C'est une ville où on peut prendre le temps de vivre, le temps de travailler. J'ai quand même, grâce au temps que j'avais pu faire toute la correspondance, la traduction de toute la correspondance de Mozart, ce que je n'aurais sans doute pas pu faire si j'étais dans une grande ville où je perdais du temps dans les transports, etc.
C'est Salzbourg l'hiver aussi hein, qu'on découvre avec vous à l'occasion de cette semaine Mozart, qui est un festival qui est peut-être moins connu d'ailleurs en France en tout cas, mais que les grands festivals d'été, de Pâques ou de Pentecôte, mais qui est un festival qui célèbre Mozart autour de sa date anniversaire. Mais Salzbourg l'hiver, c'est quel type de vie et de ville par rapport à la grande effervescence à la fois musicale et touristique aussi de Salzbourg lorsqu'on y vient l'été, Geneviève Geffrey?
C'est bien sûr beaucoup plus calme l'hiver parce que bon, il fait froid, vous voyez là on est emmitouflé, il fait très beau mais il fait froid, il y a souvent de la neige, cette année il n'y en a pas. Mais le festival de la semaine Mozart est ce qu'on appelle le festival d'hiver. C'est une dizaine de jours. En fait, cette semaine Mozart dure 10 jours. Et curieusement, vous disiez que ce n'était pas très connu en France. Le public non allemand, de langue autre que l'allemand, le public le plus important est le public français. Donc nous avons vraiment un public très fidèle. En général, des personnes, bien sûr, d'un certain âge, parce que qui peut prendre des vacances fin janvier? Ça ne sont pas ni les universitaires, ni les étudiants, ni les jeunes qui ont des examens. Mais c'est une semaine Mozart qui s'est bien établie. Alors là, depuis que je suis ici, depuis 40 ans, bien sûr, elle a pris son essor. Le directeur artistique actuellement est Marc Minkowski, ce qui explique peut-être qu'en plus, nous ayons encore plus de public français. Mais nous avions beaucoup de public francophone bien avant l'arrivée de Minkowski.
Vous nous faites un peu de géographie, Geneviève Geffrey, avant que nous entrions dans cet ancien Mozarteum d'ailleurs, mais on est à quel endroit ici de la ville?
Nous sommes sur la rive droite de la ville, dans ce qu'on appelle la ville moderne, parce qu'à l'époque de Mozart, la vieille ville était de l'autre côté, donc sur la rive gauche. Et c'est la ville où il y a la cathédrale, où il y a les grandes églises anciennes, la résidence des princes archevêques, etc. Ici, sur la rive droite, c'était la ville moderne, avec le château Mirabel, donc la résidence d'été, qui est juste derrière le Mozarteum, la résidence d'été des princes archevêques, et qui était évidemment à l'époque de Mozart une partie beaucoup moins habitée que la vieille ville, qui s'est maintenant bien sûr développée depuis plus d'un siècle, depuis un siècle et demi au moins. Nous sommes devant l'ancien Mozarteum, comme vous le disiez tout à l'heure. Cet ancien Mozarteum vient de fêter ses 100 ans, le bâtiment. Je vous expliquerai peut-être quand nous serons plus au chaud l'histoire un petit peu du Mozarteum, mais ce bâtiment donc a été inauguré au tout début de la guerre, début août 1914, ce qui était une fort mauvaise époque bien sûr, mais depuis 100 ans il est resté dans l'état de cette époque et il était destiné à abriter donc une bibliothèque Mozart, des salles de concert et un certain nombre, un haut lieu culturel à la mémoire de Mozart et au service de Mozart.
On va y entrer. Qui dit ancien Mozarteum dit nouveau Mozarteum. Ce bâtiment-là, il se trouve juste derrière, en
le
vérité.
Le nouveau Mozarteum se trouve exactement de l'autre côté des jardins Mirabel. Et c'est l'école, en fait, qui est maintenant une université, qui était avant une école supérieure de musique et qui fait partie des trois Mozarteums. Mais je vais vous en parler peut-être quand nous serons plus au chaud. Nous sommes ici donc dans le hall du Mozarteum, donc de l'ancien Mozarteum. Le Mozarteum en fait a été créé, non pas le bâtiment, mais l'association Mozarteum qui s'appelait Association de la cathédrale et du Mozarteum, a en fait été créée par Constance Mozart. Avec sa participation, bien sûr, non pas créée par elle, mais avec son assentiment et avec, bien sûr, sous ses auspices. Elle a été créée en 1841, Constance vivait donc encore.
Et on voulait faire à Salzbourg un lieu de souvenir, bien sûr, déjà, de Mozart, parce que le Salzbourg était une ville qui dormait du sommeil du juste à cette époque-là. Donc les bourgeois de la ville ont voulu sortir Salzbourg un petit peu de sa torpeur et créer donc cette association musicale. En fait, une association qui avait pour but de créer une école de musique. À partir des meilleurs étudiants et des meilleurs professeurs de cette école de musique, un orchestre. Et bien sûr, avec les lettres dont la famille Mozart nous a fait cadeau, fonder une bibliothèque autour du nom de Mozart. On ne savait pas, évidemment, à cette époque-là, que cette bibliothèque deviendrait une très, très grande bibliothèque avec plus de 40 000 ouvrages sur Mozart et puis un certain nombre de manuscrits, de documents. Malheureusement, pas beaucoup de documents musicaux parce que Constance les a vendus de son vivant parce qu'il fallait bien qu'elle ait quelque chose pour vivre. Par contre, elle nous a fait cadeau de la correspondance qui était en sa possession et c'est le gros trésor de notre bibliothèque.
Ce qui est très intéressant, Geneviève Geffray, on en parlera plus avant dans le cours de cette émission, bien sûr, mais vous évoquez évidemment le souci de Constance Mozart de faire vivre en quelque sorte à la fois le nom de son époux défunt, l'héritage, la musique de Mozart. Ça, on s'en aperçoit très vite dans les toutes premières lettres de cette correspondance, justement, qu'elle établit ne serait-ce qu'aux autorités de cette ville et dans cette correspondance que vous avez établie et traduite pour la France.
Oui. Elle voulait bien sûr établir le nom de son mari qui n'en avait pas beaucoup besoin, mais enfin, pour la postérité, bien sûr. Et puis, elle voulait aussi asseoir le nom Mozart, peut-être aussi pour ses fils, surtout pour son fils cadet, qui était musicien, qui était pianiste, et dont elle espérait faire le premier directeur, peut-être, de cette école Mozarteum. Mais ça n'a pas abouti. Il n'a jamais été directeur de cette école. Mais il a quand même participé à la création de cette association de la cathédrale et du Mozarteum. Et il a aussi participé, bien sûr, avec son frère, à l'érection et à l'inauguration de la statue de Mozart qui se trouve dans la vieille ville.
On continue alors ?
On continue.
Alors on a grimpé d'un étage, Geneviève Geffray, ici dans son bâtiment dans l'ancien Mozarteum, donc tout à côté de votre royaume, vous disiez.
Ancien royaume. Et nous sommes donc sur le palier au premier étage, dans lequel sont les bureaux de la Fondation Mozarteum, la Fondation internationale Mozarteum. Nous avons ici la salle du Présidium, c'est-à-dire la salle du conseil d'administration. Et au-dessus de cette porte, vous avez un portrait d'une dame un peu sévère, c'est Lili Lehmann, la chanteuse Lili Lehmann, qui a été une des premières bienfaitrices de la Fondation et qui a largement participé à l'établissement de ce bâtiment. Et elle a été aussi, bien sûr, très sérieusement engagée auprès de l'école, puisqu'elle était chanteuse, mais aussi professeure de musique. Et puis des messieurs encore plus sévères, qui ont été les premiers présidents donc de cette fondation, qui est une fondation privée, Donc nous avons très très peu de subventions. Nous sommes complètement indépendants et nous en sommes heureux et nous pouvons heureusement nous en sortir sans subvention officielle.
Cette semaine Mozart, elle existe depuis quand, Geneviève Geffray?
La semaine Mozart existe depuis 1956, sous cette forme, mais elle a pris beaucoup d'ampleur depuis le début des années 70, la moitié des années 70, où on avait commencé à faire des enregistrements des opéras de Mozart et de les donner de manière concertante ici, au cours de la semaine Mozart, avec Leopold Hager, entre autres, et enfin des chanteurs de grand renom à l'époque.
On continue de découvrir. Je vous laisse nous guider, accompagner.
Nous allons passer par la petite salle qu'on appelle la salle de Vienne. Je ne sais pas si nous pourrons y parler parce que j'entends qu'il y a des répétitions sans doute pour des auditions de classe ou pour des examens des étudiants de l'Université Mozart. Justement, ils ont arrêté. Mais alors là, c'est la petite salle, donc la salle qu'on appelle la salle de Vienne, parce qu'elle a été financée par l'Association des Amis de Mozart de Vienne, donc en 1914. Cette salle ont lieu, comme vous le constatez, des auditions des étudiants de l'université et aussi des concerts de musique de chambre que nous organisons la Fondation Internationale. Nettoyage avant la bataille, avant le début de la semaine des armes. Oui, je peux vous montrer la grande salle, donc la grande salle du Mozarteum, qui est une salle qui comporte à peu près 800 places et qui est une très très jolie salle, qui est vraiment faite pour la musique de Mozart, dans laquelle ont lieu la majeure partie de nos concerts de la semaine Mozart, les matinées Mozart dans le cadre du festival d'été, donc le samedi et le dimanche, et puis des concerts de musique de chambre aussi dans le cadre du festival d'été, même dans le cadre d'ailleurs du festival de la Pentecôte aussi, et puis nous organisons aussi tout au long de l'année un certain nombre de cycles de musique symphonique et musique de chambre.
Vous sauriez nous la décrire en quelques mots, Geneviève Geffray, cette
donc
salle.
C'est une salle que je pense tous les amateurs de Mozart qui sont venus à Salzbourg connaissent. C'est une salle de couleur ocre et or, avec beaucoup de stucs, des petits angelots qui jouent de la musique, etc. Différents instruments de musique. C'est une salle qui a été construite comme le reste du bâtiment, donc entre 1910 et 1914. Il y a aussi un grand orgue qui est relativement récent. Je crois qu'il a été inauguré il y a 4 ou 5 ans. Et c'est un orgue qui nous permet de faire beaucoup de choses parce qu'il est très varié. On peut donner bien sûr des concerts. Salzbourg n'est pas une ville d'orgue tellement, mais on peut y donner bien sûr des concerts et on peut s'en servir aussi pour illustration de films. Donc nous avons un cycle de films muets et un organiste qui vient et qui joue sur cet orgue, un petit peu comme au début du XXe siècle dans les cinémas.
Si on fait un petit saut en arrière de quelques décennies, voire quelques siècles, et vous qui vous êtes plongé dans la correspondance des Mozart et de Mozart, qui n'avait donc, je le rappelle, établi à la fois l'édition et fait la traduction pour la France, Geneviève Geffray, et le commentaire, bien sûr, mais ça nous amène aussi à réfléchir au fond sur ce rapport extrêmement paradoxal qu'avait Mozart avec sa ville natale. Alors, j'imagine que vous vous êtes fait une religion, vous, au terme de toutes ces années de travail, Geneviève
Geffray. Je me suis fait une religion par rapport à Mozart, vous voulez dire, je pense, mais il est certain qu'à l'époque de Mozart, Salzbourg était loin d'être ce qu'elle est maintenant. C'était une ville dirigée par un prince-archevêque, donc qui vivait surtout par la musique sacrée, qui avait peu de théâtre, qui avait certainement pas de concerts publics ou très peu de concerts publics pour la grande bourgeoisie, mais il est certain que c'était une ville dans laquelle Mozart ne pouvait pas se sentir à l'aise, parce que Mozart, ce qu'il adorait avant tout, c'était l'opéra, et il n'y avait pratiquement pas d'opéra à Salzbourg. Donc il était certain qu'un jour ou l'autre, Mozart allait vouloir quitter cette ville dans laquelle il se sentait enfermé, et je comprends qu'il se soit senti enfermé ici, parce que c'était certainement une ville un tout petit peu, enfin très très petite bourgeoise, dans le mauvais sens du terme. Et en plus, il ne s'entendait pas avec son patron, qui était le prince archevêque. Donc, c'était évident qu'il allait partir un jour et qu'il allait aller à Vienne. Mais Mozart était un personnage certainement très complexe et qui n'était pas facile à vivre. Et je pense qu'il ne se serait jamais plus nulle part, très longtemps. Il n'a pas vécu très vieux, donc il est resté à Vienne jusqu'à la fin de ses jours. Mais je ne sais pas s'il aurait terminé sa vie à Vienne s'il avait vécu plus longtemps. Nous sommes ici dans la petite pièce qui sert de foyer pendant les entractes, où on peut boire le café, etc. Pendant la semaine Mozart, on ouvre aussi comme foyer la petite salle de Vienne pour avoir un petit peu plus de place, parce qu'ici, bien sûr, 600 personnes n'y ont pas accès. Puis, devant ce foyer, nous avons le jardin. Il fait frais. Nous sommes ici donc dans ce qu'on appelle le jardin du bastion, puisque le Mozarteum a été construit en fait sur ce qui était les bastions, c'est-à-dire le mur de soutènement du jardin Mirabel. Et en fait, à l'époque de Mozart, le fleuve arrivait pratiquement jusqu'ici, jusqu'au bord de cette rue. Nous sommes ici donc dans ce jardin dans lequel on a transporté, au début du XXe siècle, enfin au moment où on l'a construit, on a transporté à Salzbourg la maisonnette de la Flûte Enchantée qui se trouvait donc à Vienne, dans le jardin du théâtre où a été créée la Flûte Enchantée. Cette petite maison qui se trouve dans ce jardin a d'abord été placée sur le Kapuzinerberg, qui est la montagne qu'on aperçoit ici en arrière-fond. Et depuis la dernière guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on l'a transportée ici pour mieux la préserver. C'est une maisonnette de bois et elle était malheureusement un petit peu... Il y avait des gens qui s'y installaient, qui campaient, etc. Puis quand elle était ouverte à tout vent, bien sûr. Donc on a décidé de la transporter ici pour mieux la préserver.
Donc juste derrière, ce sont les jardins Mirabel.
Derrière, c'est les jardins Mirabel qu'on aperçoit maintenant, qu'on ne voit pratiquement pas l'été parce qu'évidemment, il y a beaucoup de feuillage. Et donc cette petite maison se trouvait à Vienne, dans la cour du théâtre. C'était une maisonnette de jardin. Je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui ont vu le film Amadeus, on voit Mozart faire des orgies dans cette maison de jardin près du théâtre. Quand on la voit en naturel, on se dit qu'elle est vraiment très très petite. La légende raconte que Mozart y aurait été enfermé par Schikaneder pour écrire plus vite la Flûte Enchantée, mais c'est évidemment une des nombreuses légendes autour de Mozart. Mozart n'avait pas besoin qu'on le force à écrire la Flûte Enchantée. Je ne pense pas qu'il serait laissé d'ailleurs contraindre et enfermé. Et quand il avait commencé un opéra, surtout comme la Flûte Enchantée, je pense qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de la terminer rapidement. Il est possible que dans cette maison, il ait peut-être fait des répétitions avec une chanteuse, qu'il y ait eu un petit piano forte ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'y a sûrement pas été enfermé pour terminer son opéra. Vous avez ici aussi un énorme tilleul qui est maintenant sans feuilles, mais on voit sa taille, voit mieux sa taille quand il n'a pas de feuilles. C'est le tilleul de Lili Lehmann. C'est un tilleul qui a été planté donc en 1914 par la chanteuse Lili Lehmann, qui était une des grandes fondatrices de la fondation, et qui a planté cet arbre qui a l'air de bien se sentir très à l'aise ici, puisqu'il a vraiment énormément grandi, et c'est un très très beau tilleul. Dans ce petit jardin, où l'été aussi on peut venir prendre le café à l'entracte des concerts du festival, etc.
Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papaginosie. O so ein sanftes Träumchen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keine von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen. Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Sanftes Träumchen, mehr Seligkeit für mich, mehr Seligkeit für mich, mehr Seligkeit für mich.
De l'autre côté du jardin Mirabel que nous voyons d'ici, vous avez donc le nouveau Mozarteum, c'est ce bâtiment moderne que vous voyez ici avec une salle vitrée, etc., qui a été réouvert il y a peut-être une dizaine d'années, je pense. Je ne sais plus, je n'ai pas les dates en tête, mais il y avait eu des problèmes d'amiante et de produits cancérigènes qui avaient rendu les professeurs malades. Il a été reconstruit et maintenant il est vraiment très. C'est un très beau bâtiment pour les étudiants.
Ça veut dire que les choses se distribuent de quelle façon, justement, par rapport justement à la vie des étudiants, alors, entre l'ancien bâtiment et le nouveau?
À l'origine, donc, quand la fondation a été créée, tout était dans. En 1914, tout était dans ce bâtiment, l'école, la fondation et l'orchestre même faisaient toutes ces répétitions ici. Maintenant, depuis une quarantaine d'années, chaque partie prenante de ce Mozarteum a pris son essor. L'orchestre est devenu un orchestre de professionnels qui a son siège ailleurs, qui est d'ailleurs un orchestre de la région, donc un orchestre officiel. L'école de musique est devenue une université, c'est donc aussi une université d'État. Et la fondation est restée une fondation privée. Alors, la fondation est en majeure partie maintenant dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment de l'ancien Mozarteum, il y a encore quelques chanteurs, quelques classes, quelques studios aussi pour étudier. Mais la majeure partie de l'université est dans le nouveau Mozarteum. C'est devenu une université assez importante. Je crois qu'ils ont 1400 élèves ou quelque chose comme ça. Voilà la pièce qui a été mon royaume pendant 38 ans et qui est la jolie pièce, la pièce de représentation de la bibliothèque Mozart, dans laquelle nous réunissons toute la littérature qui a pu être écrite sur Mozart. Et encore, nous avons bien sûr d'autres pièces dans lesquelles, avec des réserves, parce que cette pièce est beaucoup trop petite, bien qu'elle soit déjà relativement vaste, mais elle est trop petite pour toute la littérature. Il y a à peu près 40 000 titres sur Mozart.
Et quand vous dites que cette pièce a été votre royaume, Geneviève Geffray, c'est que vous étiez jusqu'à il y a peu de temps encore un conservateur en chef de cette bibliothèque ici au Mozarteum.
Conservateur en chef de cette bibliothèque jusqu'en juin 2011. Donc il y a maintenant trois bonnes années que je suis à la retraite. Mais je continue à avoir un petit peu un pied, au moins, dans la maison, un petit peu.
Alors peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer dans une autre pièce ici du Mozarteum, parce qu'évidemment, qui dit bibliothèque, dit travail et dit lecteur.
Il y a un lecteur dans cette pièce. Calme, donc il vaut mieux ne pas trop parler.
France Musique.
France Musique, c'est l'air des lieux. Nous passons cette partie de l'après-midi au Mozarteum à Salzbourg. Un extrait à l'instant du quatuor numéro 17, surnommé La Chasse. C'est l'un des quatuors dédiés par Mozart à Haydn. Et nous rejoignons Geneviève Geffray. C'est l'ancienne conservatrice en chef de la bibliothèque du Mozarteum. On lui doit l'édition française de la correspondance Mozart.
Comme je vous le disais, la fondation a été créée en partie sous les auspices de Constance Mozart, qui nous a fait don, elle et ses fils, de la majeure partie de la correspondance qui était en leur possession, et donc des lettres originales de Léopold Mozart, de la mère, de la sœur, de tante parfois. Et donc nous avons une collection d'à peu près 700 lettres de la famille Mozart, c'est-à-dire à peu près 130-140 de Mozart lui-même, un peu plus de 250 de Léopold Mozart, lui aussi, le père, qui était le grand scribe oui. de la famille, le grand historien. Il était tout à fait conscient de la valeur du témoignage écrit. Et donc, il demandait à ses amis et à sa famille de préserver les lettres, de les garder, parce qu'il était certain qu'il avait mis au monde un petit génie. Très rapidement, il s'est rendu compte qu'il avait mis au monde un petit génie. Et il demandait à ses amis de conserver les lettres qui lui serviraient, disait-il, de documentation pour la biographie de son fils qu'il envisageait de faire, alors que son fils n'avait que 12 ans.
Mais en préface justement de l'édition de cette correspondance Mozart, Geneviève Geffray, vous en faites le portrait du père Mozart, de Léopold Mozart, et vous dites à quel point c'était un homme extrêmement cultivé, absolument, érudit, vivant ici à Salzbourg, mais participant à toute la vie culturelle de cette ville, et pas seulement la musique, hein, c'était bien au-delà de
pas
ça.
Pas seulement de la ville. Léopold Mozart était quelqu'un qui avait une éducation universitaire, il avait fait des études de droit. Sans doute parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire. Il ne voulait pas faire de théologie parce qu'il ne voulait pas être prêtre. Et il a donc fait des études universitaires et il s'intéressait vraiment à tout. Il s'intéressait à la pharmacie, il s'intéressait à l'architecture, il s'intéressait bien sûr à la musique, à la littérature, à la philosophie, à l'éducation des enfants, ce qui est assez extraordinaire pour l'époque puisqu'il n'y avait pas de... Surtout pour les filles, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école obligatoire, ni pour les filles, ni pour les garçons. Ni Wolfgang, ni sa sœur Nannerl ne sont jamais allés dans une école. Ils ont été éduqués par leur père. Et personnellement, j'ai une grande affection, bien que ça n'ait pas été un personnage certainement très rigolo, Léopold Mozart, mais j'ai une grande admiration, une grande affection pour lui, parce que je me dis que même si Mozart était un génie, s'il avait vécu dans une campagne illettrée, il n'aurait sans doute pas pu faire évoluer son don. Et c'est quand même grâce à son père qu'il a réussi à respirer, à obtenir une culture générale, bien qu'il se soit surtout lui intéressé bien sûr à la musique, la littérature par rapport à s'il pouvait s'en servir pour des livrets ou pour écrire des leaders, etc. Mais c'était surtout la musique qui l'intéressait. Mais il avait reçu quand même, au cours de ses voyages, qui étaient des voyages que ne faisaient normalement que les gens de la noblesse, ces grands voyages, ces grandes tournées en Europe, il est quand même allé voir sur place. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet. Et on était obligé d'aller écouter sur place les musiciens, la musique de son temps. Et c'est quand même grâce à son père qu'il a réussi à obtenir cette culture dont il s'est imbibé comme une éponge.
Une petite incise, vous parliez tout à l'heure, lorsque nous étions dans le jardin, de tout ce qui a contribué à la légende Mozart. Alors vous vous êtes plongé dans cette vie, dans cette correspondance et dans cette œuvre depuis longtemps. Geneviève Geffray, on va tordre le cou peut-être à certaines légendes dans le cours de cette discussion, mais vous citiez aussi le film Amadeus. Il a donné une vision relativement juste du personnage, que diriez-vous ?
Il a mis un éclairage sur un côté du personnage. Et un côté qui avait été laissé à l'écart jusqu'à cette époque-là, parce que on vivait encore à l'époque du film Amadeus un petit peu dans le souvenir de Mozart du 19e siècle, le petit angelot asexué du génie méconnu et maltraité bien sûr par ses contemporains, etc. Il a permis de remettre un petit peu les pendules à l'heure, si vous voulez, mais sur le plan historique évidemment il a énormément d'erreurs. La première fois que je l'ai vu, j'ai été assez horripilée bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le plan historique, mais il a permis quand même de jeter un éclairage sur un côté du personnage qui est vrai. Ce que je reproche au film, c'est que bon, il fait de Mozart peut-être un addict au jeu, à l'alcool et au billard, etc. Mozart aimait certainement la vie, et c'est certain, mais il ne pouvait sans doute pas se permettre de jouer toute la journée et d'arriver ivre dans les soirées, ça n'est certainement pas vrai. Mais par contre, il était insolent, c'est certain qu'il ne se gênait sans doute pas pour dire ce qu'il pensait à ses contemporains. Il l'a écrit aussi parfois.
Silence, 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 Herr Mozart. Bienvenue, ne faites pas attention, ils sont impossibles, ignorez-les. Je les traite comme je traite mes propres enfants. Là, allez.
Auquel suis-je venu donner ma leçon?
Oh. Amusant. Vous êtes un sacré farceur.
Arrête, arrête. Il hurle toujours quand il entend de la musique.
Alors, vous avez été chercher quelques volumes dans la bibliothèque Mozart, ici au Mozarteum. Geneviève Geffray, je vais vous laisser nous les présenter, les ouvrir, les regarder ensemble.
Je vais peut-être vous présenter tout d'abord ce que tout le monde connaît de nom, mais que peut-être peu de personnes ont eu entre les mains, sauf les musiciens, bien sûr. C'est le catalogue Köchel. Je vous montre ici la sixième édition de ce catalogue Köchel, qui est l'édition la plus récente, elle date de 1964. C'est déjà très, 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 très ancien, ça a plus de 50 ans. Mais sous forme livresque, en tout cas, c'est la dernière édition du catalogue Köchel. Vous savez que quand on donne des œuvres de Mozart, on cite toujours un numéro K en français, K en anglais, KV ici, Köchel-Verzeichnis, catalogue Köchel. Ce catalogue est un catalogue chronologique, c'est-à-dire qu'on peut savoir à peu près, quand on voit un numéro, à quelle époque de la vie de Mozart ça a pu être composé. Köchel 1, c'est les premières œuvres. Köchel 626, c'est le Requiem, la dernière œuvre qui n'a pas terminé. À propos d'Amadeus, il y a bien sûr une erreur monstrueuse dans ce film, c'est qu'on a l'impression que c'est Salieri qui a écrit le Requiem sous la dictée de Mozart, et évidemment ça n'a pas l'ombre d'un instant de vérité.
Je m'arrête sur ceci.
Oui, Amadeus, Mozart s'est toujours appelé Amadeus. Et même souvent, ils le mettent avec un accent grave et non pas un accent aigu, à l'italienne. En fait, Mozart s'appelait, dans ses noms de baptême, il s'appelait Wolfgang Theophilus. Theophilus, qui est la forme d'Amadeus et qui est la forme de Gottlieb. En fait, sur son registre de baptême, il s'appelle Theophilus, mais il s'appelait en fait Gottlieb, du prénom de son parrain. Gottlieb, aimé des dieux, qui est la même forme que Amadeus. Mozart ne s'est jamais appelé Amadeus, sauf une fois où il avait donné son nom en latin, en cité ses noms de baptême en latin, où il parle évidemment de Amadeus. Mais la forme Amadeus est venue à la fin du XVIIIe siècle, après la mort de Mozart pratiquement. C'est Constance qui parlait de lui en tant qu'Amadeus. Mais lui-même ne s'est jamais appelé Amadeus, mais toujours Amadeus. Gottlieb, quand il était petit, sa forme allemande, de la forme allemande, son prénom, et Amadeus, donc, aimé des dieux. À partir du moment où il était en Italie, il s'appelait aussi Amadeo en Italie. Alors, ce catalogue est donc chronologique et il est extrêmement bien fait, extrêmement soigné. Vous avez pour chaque œuvre le numéro du catalogue Köchel, le titre, les instruments, la date, dans la mesure où elle a été datée d'une manière précise, les premières mesures de chaque mouvement, ou par exemple pour un opéra, je cherche par exemple la Don Juan 527, Don Juan, alors là évidemment vous en avez un certain nombre de pages, l'ouverture, la date, l'ouverture, l'endroit où se trouvent les manuscrits, l'ouverture, les premières mesures de chaque air, de chaque récitatif, etc. Et puis l'endroit où se trouve l'autographe. L'autographe de Don Juan est à Paris, à la Bibliothèque nationale, c'est indiqué ici. Les premières éditions, les éditions anciennes, un certain nombre d'éléments de littérature, mais évidemment ça s'arrête à 1964, donc c'est loin d'être exhaustif.
Ma Ma sœur chérie, je te demande bien pardon de t'avoir laissé si longtemps sans réponse. Tu sauras sans doute déjà que j'ai écrit pour Prague Don Juan et eu tout le succès possible. Je suis sûr que cette nouvelle te sera sûrement la bienvenue. Quelques lignes de Mozart donc à sa sœur Nannerl, quelques lignes en date du 19 décembre 1787. Et le temps de refermer le catalogue Köchel, nous avons ouvert avec Geneviève Geffray le fac-similé de la partition de ce Don Giovanni.
Et vous avez donc ici tout l'opéra. Alors vous pouvez voir, c'est intéressant, la première page, ouverture, qui est relativement foncée, le papier est relativement foncé. Et puis quand on... la deuxième page aussi, mais quand on continue à feuilleter, le papier est de plus en plus clair, parce qu'en fait le papier est quelque chose de très, très vivant. Et il est certain que la première page de l'ouverture a sans doute dû être exposée plus longtemps que le reste du papier. C'est le problème que nous avons aussi dans notre trésor des autographes, c'est que ce papier ne doit pas rester à la lumière très très longtemps, parce que l'encre s'estompe en général, et donc on finit par avoir du papier qui est presque aussi foncé que l'encre utilisée par Mozart. Et vous voyez ce fac-similé qui est vraiment... Enfin, cette écriture, surtout, c'est incroyable de voir la propreté de ce manuscrit, qui est un manuscrit de travail. Hein. Si on feuillette, on va trouver des passages où il y a des choses barrées. On voit là, il y a une mesure qui a été barrée parce que Mozart a changé d'idée en cours de composition, mais c'est vraiment d'une propreté, d'une clarté. On voit vraiment qu'il savait ce qu'il composait quand il se mettait devant la feuille de papier.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, quand nous étions dans le jardin, Geneviève Geffray, il n'y avait pas besoin de trop forcer la main pour inciter Mozart à écrire, à composer. On découvre ça aussi dans le fil de sa correspondance, le rapport qu'il a justement à l'écriture, au travail, dans son quotidien.
Oui, bien sûr. Il y a peu d'opéras, en tout cas, sur lesquels il est donné des renseignements, sauf Idoménée, justement, dont nous parlions tout à l'heure. Idoménée parce que Mozart était à Munich, Léopold Mozart était à Salzbourg avec le librettiste, et il y a une énorme correspondance entre le père et le fils à cette époque. Là, en 1780, entre Mozart et son père, Mozart demandant à son père de faire par l'abbé Varesco, le librettiste, un certain nombre de changements pour les chanteurs, qu'il y a un chanteur qui refusait d'avoir 5 i dans une phrase parce que c'était imprononçable, etc. Donc là, on voit très bien comment Mozart travaillait et travaillait avec ses chanteurs aussi, ce qui est intéressant. Malheureusement, on n'a pas ça sur les grands opéras qu'il a écrits à Vienne, parce qu'à Vienne, il avait tout le monde sous la main et donc on ne s'écrivait pas. Par exemple, vous voyez ici, on peut voir sur cette page que j'ouvre au hasard, on voit deux couleurs d'encre. Et on peut voir sur ces manuscrits et sur les facsimilés de grande qualité comment Mozart composait. On voit qu'il a écrit ici avec une encre foncée la partie chantée, et puis un certain nombre d'instruments qui sont vraisemblablement les violons aussi avec cette encre foncée, donc la structure de l'œuvre. Et puis d'autres instruments en haut, donc ce sont les instruments avant, qui sont écrits avec une encre beaucoup plus pâle. Dans un second temps de travail, vraisemblablement, il faisait le remplissage de l'instrumentation. Et ça, c'est le système que Mozart avait toute sa vie.
Le commentaire de Donana, si je me trompe pas. C'est le
Orsay qui l'honore. Oui, ça, on l'a ouvert comme ça par hasard. Oui. Et donc, on voit comment il faisait, il composait en fait verticalement. C'est-à-dire qu'il avait la partie de chant, les instruments principaux, donc en général ce sont les instruments à cordes, ou alors par contre ici, tout en haut, c'est sans doute donc les flûtes ou je ne sais pas, qui ont quelque chose d'important à dire et qui sont aussi écrits dans un premier temps de travail. Et puis dans un deuxième temps de travail, il fait le remplissage, l'instrumentation. Mais tout le manuscrit est écrit par Mozart lui-même. Donc il n'avait pas de scribe qui faisait le remplissage.
Thank you.
Le travail qui a été le vôtre sur cette correspondance, Mozart, Geneviève Geffray, ça a été le fruit de combien d'années de travail, justement ?
Des années de travail, oui. Je faisais ça en plus de mon travail, c'est-à-dire que je le faisais dans mon temps libre et le soir et pendant mes vacances. J'ai mis 14 ans. C'est la raison pour laquelle ça s'est quand même un tout petit peu étiré, disons, parce que c'était quand même un travail énorme et très passionnant, bien sûr, mais qui a duré quand même presque un tout petit peu trop longtemps. Mais j'ai mis 14 ans, pratiquement, à faire tous les... Il y a 1400 documents. Donc c'est un énorme travail. Alors je voudrais vous montrer aussi, puisque je ne peux pas vous montrer les originaux en ce moment, puisque nous n'avons pas accès au trésor, mais je peux vous montrer par contre une édition en facsimilé de ces lettres. Ce n'est pas une aussi belle édition que l'édition des opéras, bien sûr, parce que c'est très ancien.
Juste pour vous, de l'autre côté, c'est écrit en français, où je me trompe.
Alors voilà, oui, c'est ça. Alors, ça, c'est une lettre de Madame Mozart, première. Oui, Mein lieber Mann, c'est une lettre de Madame Mozart écrite pendant le voyage qu'elle a entrepris toute seule avec son fils. Et les lettres ressemblent à ça. C'est l'avantage des facsimilés, c'est qu'on peut vraiment les prendre en main et les tourner les pages sans avoir peur d'abîmer. C'était en général un feuillet plié en deux, donc quatre pages. Et sur la dernière page, sur la page 4, on avait l'adresse en français. Le code postal est toujours français. Sur les sacs des postes autrichiennes, il y a marqué « Poste d'Autriche » en français. Donc, Monsieur Léopold Mozart, etc. L'adresse Salzbourg, même en français, avec OUG. Et puis, on pliait la lettre, comme ça, et on mettait un tampon. Et donc, on envoyait ça sans enveloppe, pratiquement. C'était la quatrième page, souvent, qui servait d'enveloppe. Ici, c'est une lettre donc, de Madame Mozart. C'est écrit évidemment dans l'écriture allemande qui est pratiquement illisible pour des Français qui n'ont pas appris. Mais je voudrais vous montrer une des lettres qui est, à mon avis, une des plus touchantes de Mozart. C'est celle qu'il a écrite, une de celles qu'il a écrites à son père au moment de la mort de sa femme, février 78. Non, c'est encore plus tard. Voilà, ce sont les deux lettres qu'il a écrites à son père au moment où sa mère est morte à Paris. Donc la lettre du 3 juillet, ça doit être celle-ci. Alors voici donc la lettre que Mozart a écrite à son père le 3 juillet, juste après la mort de sa mère. Et je trouve cette lettre absolument bouleversante parce qu'on voit même rien que par l'écriture, même si on ne comprend pas, il commence avec une écriture toute petite. Et puis, quand on tourne la page, l'écriture se détend. Il commence à parler de son... Il dit « Oublions ses pensées tristes », etc. Il commence à parler de sa musique et de la symphonie parisienne. Et quand il parle de cette musique, on voit que l'écriture se détend, qu'il oublie mentalement. Et je trouve ça vraiment très, très, très significatif. Et vous voyez ici, encore comme d'habitude, Wolfgang Amadé, avec un accent grave, Mozart à son père. Et puis, la deuxième lettre, alors celle qu'il a écrite 6 jours plus tard à son père, alors qui est encore plus dense... d'écriture, une toute petite écriture, alors complètement, vraiment introvertie. C'est celle dans laquelle, dans la première lettre du 3 juillet, il dit à son père que sa mère est malade, alors qu'elle était déjà morte et qu'elle était déjà à côté de lui, sans doute, dans son linceul. Et le 9 juillet, il lui écrit une lettre en lui disant, j'espère que vous avez été prévenu par notre ami auquel il avait demandé de mettre les formes et de prévenir son père et sa sœur de l'issue fatale. Et il écrit donc « Vous êtes maintenant prévenu et vous savez que ma chère mère, etc. est morte ». Et puis il parle de la manière dont elle est morte. Cette lettre est évidemment très très dense, très très écrite très finement. Et là, alors là, il se lâche moins évidemment. Mais il parle aussi à la fin de sa musique et de sa symphonie parisienne qu'il avait fait donner au Palais Royal juste avant la mort de sa mère. Et où il est allé ensuite manger une glace pour remercier le ciel et après être allé faire sa prière aussi à l'église. Il est allé manger une glace parce que la symphonie avait eu beaucoup de succès.
Mozart à son père à Salzbourg. Paris, ce 9 juillet 1778. Monsieur, mon très cher père, J'espère que vous serez en état d'apprendre avec constance une nouvelle bien triste et douloureuse. Ma lettre du 3 vous aura préparé à ne rien attendre de bon. Ce même jour, le 3, ma mère s'est endormie saintement en Dieu à 10h21. Lorsque je vous ai écrit, elle jouissait déjà des joies célestes. Tout était terminé. Je vous ai écrit cette nuit-là. J'espère que vous et ma chère sœur me pardonnerez cette petite tromperie très nécessaire, car comprenant d'après ma propre douleur et ma tristesse qu'elle serait la vôtre, je n'ai pu avoir le cœur de vous surprendre brutalement par cette affreuse nouvelle. J'espère maintenant que vous êtes prêt à apprendre le pire et qu'après avoir laissé libre cours à cette douleur bien naturelle et compréhensible, ainsi qu'aux larmes, vous vous en remettrez finalement à la volonté de Dieu et adorerez sa providence inexplorable, insondable et si sage. Il m'a fallu me consoler. Faites-en autant, mon cher papa et ma chère sœur. Pleurez, pleurez à chaudes larmes. Mais consolez-vous en fin de compte. Pensez que le Dieu Tout-Puissant l'a voulu ainsi. Et que pouvons-nous faire contre sa volonté? Prions plutôt et remercions-le que tout se soit passé ainsi, car elle a eu une mort heureuse.
Une des personnes au monde qui connaissait le mieux Mozart, Geneviève Jeffrey.
Oh, je pense pas, non. Je pense qu'il y en a d'autres. Je le connais bien, mais
passant près de 15 années à traduire sa correspondance.
Quand je travaillais vraiment à la correspondance, j'avais un petit peu l'impression de souffrir du dédoublement de la personnalité, oui, parce que je ne savais pas, je dis toujours, je ne savais pas si j'étais sa mère, sa maîtresse, sa sœur ou qui j'étais, mais souvent je m'énervais d'ailleurs parce qu'on sent entre les lignes qu'il cherche à se mettre sous un beau jour, faire plaisir à son papa, etc. Mais c'est un personnage quand même très complexe. Donc il est difficile à connaître. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent très très bien Mozart aussi et qui connaissent encore beaucoup mieux que moi, bien sûr, les tenants et les aboutissants de sa musique. Mais le principal, c'est de pouvoir en profiter d'ailleurs et de l'apprécier, je crois.
C'est ici, au Mozarteum, à la Fondation Mozart, que l'on fait l'essentiel dans le monde du travail, justement, oui, sur Mozart, sur sa musique, sur ses éditions aujourd'hui.
La Fondation a à sa disposition ce qu'on appelle l'Académie für Mozartforschung, l'Académie pour la recherche mozartienne, oui, qui est constituée de chercheurs musicologues du monde entier, mais qui se réunissent ici régulièrement, une ou deux fois par an, à Salzbourg, le plus complet possible. Bien sûr, il y en a certains qui ne viennent pas très souvent, mais qui sont quand même en relation avec les autres. Et c'est de la Fondation Mozarteum de Salzbourg qu'est partie aussi la nouvelle édition Mozart, qui a été éditée donc entre 1956, l'année du bicentenaire de Mozart, et là, le 2001-2002. Mais c'est une édition qui continue maintenant sur le plan électronique, digital, numérique, et qui continue aussi à mettre en ligne toute la nouvelle édition Mozart est intégralement en ligne, c'est-à-dire que si vous êtes au fin fond du Sahara et que vous avez une connexion internet, vous pouvez lire l'édition imprimée de Don Juan ou de n'importe quel opéra ou de n'importe quelle œuvre, et c'est gratuit. Donc c'est, je crois, relativement unique. En tout cas, ça a été un des premiers compositeurs pour lesquels on pouvait faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres compositeurs qui soient d'une manière aussi intégrale d'accès libre, toute la musique d'accès libre sur Internet. Donc tout part d'ici. Il y a ici un certain nombre de chercheurs qui sont employés de la Fondation, qui ont la bibliothèque, bien sûr, à leur disposition. Les manuscrits, on les a en général numérisés, donc on les a dans notre banque de données. mais peut-être pas à 100%, parce qu'il y a certains documents qui sont dans des collections privées, etc. Mais nous avons vraiment, je crois, au moins 90% accès à tout ce qui est connu de Mozart, de manuscrits originaux.
Merci beaucoup. Et nous refermons cette émission comme nous l'avions ouverte, avec le premier mouvement de cette symphonie numéro 25 de Mozart, dans un enregistrement formidable d'ailleurs. C'est celui que James Levine a gravé avec le Philharmonique de Vienne il y a 30 ans, en 1985. Magnifique disque. Alors il faut bien sûr que vous vous plongiez ou que vous vous replongiez dans la correspondance Mozart, traduite en français, éditée et commentée par Geneviève Geffray. C'est un gros volume de pas loin de 2000 pages publié chez Flammarion. N'hésitez pas non plus à aller visiter le site de la Fondation Mozarteum. Vous y trouverez donc absolument toutes ces lettres de la famille Mozart, reproduites et mises en ligne. Alors j'ai mis le lien bien entendu sur la page de l'Air des Lieux de ce dimanche, et en ligne toujours également et en podcast, le premier volet de notre séjour à Salzbourg. C'était avec Bartabas et avec Marc Minkowski. Tout cela donc sur francemusique.fr. Et c'est Béatrice Trichet qui a enregistré et réalisé ce numéro de l'Air des Lieux. Un grand merci à elle, à Lucas Vaillant qui était avec nous aujourd'hui et à Marie-Christine Ferdinand qui prépare nos équipées musicales. Et puis un merci tout particulier à Jean-Louis Couloc. À bientôt.